Voilà, c'est bien que quelqu'un d'autre le lise. C'est alors nous avons là le récit. On a vu dans une introduction, hein, le premier chapitre est une sorte d'introduction qui fait la liaison entre le Pentateuque, les cinq premiers livres de Moïse, les cinq livres de Moïse. Il y a pas, c'est les premiers et les cinq. Et puis le livre de Josué. C'est en fait la conquête du pays de Canaan. Le Seigneur Dieu avait prévu et promis à Abraham que le pays serait à sa postérité. Et maintenant, eh bien, c'est leur hache. C'est le moment arrivé où cette promesse, qui est presque d'un demi-siècle, d'un demi-millénaire, qui est vieille d'un demi-millénaire, eh bien, va s'accomplir. Il y a un terrain préparé, il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites. Dieu a préparé depuis longtemps l'entrée du pays, du peuple, du pays par le peuple. Donc le peuple avait besoin d'être préparé, d'une part, mais le pays qui devait être conquis devait être préparé aussi. Et alors, voilà. Au cours du texte, on se rend compte que les Cananéens, Amoréens, Phérésiens et Jébusiens et autres, et Hittites, eh bien, étaient terrorisés par le peuple d'Israël. Terrorisés. Et ce n'est pas pour rien. Vous savez, les plans de Dieu sont excellents et merveilleux. Quand on accepte le plan de Dieu pour notre vie, on est toujours béni. Il y a toujours quelque chose de merveilleux qui s'accomplit, même si cela doit passer par 430 ans d'esclavage en Égypte. Et le peuple d'Israël a vécu 430 ans d'esclavage en Égypte. C'était la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Ils sont arrivés à 70 en Égypte, et quand ils sont repartis, eh bien, ils étaient des millions. Il y avait 600 000 hommes de pied, c'est-à-dire hommes de guerre. Après, vous faites tourner autour. Tous ceux qui ne sont pas comptabilisés, les enfants, les femmes, les personnes âgées, etc., etc., ce qui double ou triple le nombre. Donc c'est plutôt triple que doublé, hein, ça je peux vous dire. Si tout homme était marié, donc ça double. Et s'il y avait une kyrielle d'enfants, parce qu'en général il y en a une dizaine, vous voyez la chose, et puis il y avait les personnes âgées. Cela fait du monde. Et le peuple est sorti d'Égypte puissamment. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai dit aux étudiants, donc je vous le dis, vous ne le savez pas, mais quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, l'Égypte était ruinée. L'Égypte n'avait plus d'économie. Il n'avait plus d'infrastructure. C'est-à-dire que l'économie égyptienne ne pouvait pas se relever des 10 plaies d'Égypte. Parce que les 10 plaies d'Égypte concernaient toutes les productions agricoles et toute la nourriture. Ils n'étaient plus capables de subvenir à leurs besoins. Les arbres avaient été détruits, les récoltes avaient été brûlées, et même les premiers-nés étaient disparus. Et comme les Égyptiens avaient des coutumes particulières dans les mariages, ils avaient peu d'enfants. Et le premier-né, c'était vraiment une exception. Donc là aussi, il y avait une ruine. Et puis, quand les Égyptiens ont poursuivi le peuple d'Israël dans la mer Rouge, et que la mer Rouge a engouffré l'armée de Pharaon, brusquement, l'Égypte n'avait plus d'armée. Il n'avait plus de Pharaon, il n'avait plus d'armée, il n'avait plus d'économie. Il leur a fallu peut-être 50 ou 60 ans ou davantage pour se remettre de tout cela, ce qui a fait donner au peuple d'Israël dans le désert une paix parfaite. Les Égyptiens ne les ont pas poursuivis pour la bonne raison qu'ils étaient effacés de la géopolitique de cette époque. Ils n'existaient plus. Il n'y avait, disons, l'Égypte existait toujours, mais du point de vue puissance économique et politique et militaire, il n'y avait plus d'Égypte. Et même, il y a un fragment qui s'appelle le fragment d'Akhenaton, de Manéthon, rapporte que c'est un écrivain égyptien du 2e siècle avant Jésus-Christ qui était complètement antisémite. Hein. Les Juifs, il les haïssait. On ne peut pas le dire qu'il était, il a écrit ça pour les Juifs. Hein. Il les haïssait. Donc, il n'y en a que des fragments. Hein. Ça a été trouvé sur, dans l'enveloppe qui entourait une momie. Donc, on a des faits et c'était ce document. Et il dit que pendant 2 siècles, les Égyptiens étaient incrédules. Ils ne croyaient plus à leur Dieu. Donc c'est un autre effet de ce qu'il s'est passé. Ils n'avaient plus de foi. Ils n'avaient plus de Dieu. Et c'est la période justement d'Amenophis III. C'est à la fin de ces 2 siècles, Amenophis III est arrivé et il a promulgué un Dieu unique qui était le Soleil. Donc comment dire, le peuple, les Égyptiens étaient anéantis. Si bien que les Cananéens, qui étaient tributaires des Égyptiens, parce que les Égyptiens s'occupaient d'eux et surtout qui payent les impôts, eh bien, brusquement, étaient libres. C'est pour cela qu'il y avait des villes-États qui avaient une certaine autonomie, parce que les Égyptiens n'étaient plus assez puissants pour gérer tout ce qui se passait dans le pays de Canaan. Donc ils se sont organisés en ville-État, c'est-à-dire il y avait un roi. Par exemple, à Jéricho, eh bien, il y avait un roi. Ce n'était pas un maire, c'était une principauté, comme Monaco, comme l'Andorre et d'autres principautés dans ce monde. C'est un gouvernement autonome. Et ces gens-là, eh bien, tremblaient parce qu'ils se sentaient tout petits et tout seuls. Il n'y avait pas la grande puissance derrière pour les épauler et venir à leur secours s'il y avait un problème. Et le peuple d'Israël avançait et il suivait les marches de ce peuple qui avançait au travers du pays. Et il y a eu l'événement de Og et roi de Bazan, qui était de l'autre roi. Hein. C'est des géants, des gens qui étaient aussi très puissants, les Amoréens. Ces gens-là ont été battus, mais complètement. Et là, le peuple est prêt au bord du Jourdain, à 3 jours de marche du Jourdain. Là, ils se disent, ça y est, maintenant ils passent et c'est notre tour. Et ils ne se font pas d'illusions. C'est donc très important de voir comment Dieu a agi avec un demi-millénaire pour arriver à ce point-là où le peuple, non seulement le peuple d'Israël est prêt, mais les personnes qui doivent être conquises sont prêtes aussi. Et c'est la puissance de Dieu, c'est la grandeur de Dieu, c'est irrésistible. Et l'homme doit se soumettre à Dieu et accepter son plan. Et nous verrons que certaines personnes acceptent le plan de Dieu et d'autres ne l'acceptent pas. Et quand les personnes acceptent le plan de Dieu, eh bien, c'est par petits groupes, tandis que l'immense majorité ne l'accepte pas. Et c'est les gens sont terrorisés dans leur ville, derrière leurs murailles. Et ils tremblent de peur, mais ils ne cherchent pas une solution. Ils n'ont pas envoyé des émissaires auprès du peuple d'Israël en disant, voilà, qu'allez-vous faire et que devons-nous faire? Je ne sais pas, ça aurait été la moindre des choses. Et envoyer une ambassade, ou essayer d'établir des contacts, des liens. Si on veut venir dans l'histoire de ce qui s'est passé, on se rend compte que, bon, au travers de tous les textes, hein, quand on lit tous les événements de l'Exode, de Lévitique, Nombre, peut-être pas Lévitique, mais Nombre, Deutéronome et Josué, on se rend compte qu'il y a un peuple dans le peuple. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Il y a beaucoup de gens qui circulaient autour et à l'intérieur. Il devait y avoir au moins un marché à l'extérieur du campement d'Israël. Une place où on vendait des bestiaux et on achetait et on faisait le commerce. Bon, parce que comme c'est le à ce moment-là, ils sont nomades, donc il y a des choses qu'ils ne possèdent pas. Par exemple, pour faire du pain, il faut du blé. Et le blé, ils ne peuvent pas le faire pousser. Le nomadisme ne permet pas de faire pousser le blé. Donc, il faut l'acheter. Donc, il y avait un marché. Il y avait des gens qui venaient et ça discutait dans tous les sens. Et ces gens-là, eh bien, venaient et parlaient au nom d'Astarté ou de Baal, où ils disaient, oh non, je te le jure sur Baal, que ça, c'est là, vraiment, là, tu as la bonne qualité. Hein, c'est pas... Alors, le peuple d'Israël, qui n'était pas toujours très orienté pour Dieu, disait, ah bon, si c'est Baal que tu crois, et il y avait toutes sortes de choses qui étaient dites comme cela. Et certains disaient, oh non, mais ton Baal, moi je crois à l'Éternel. Il y avait donc des discussions de tous les jours, des gens qui parlaient, qui s'instruisaient. Et voilà que Josué envoie des espions, secrètement. Alors vous pouvez noter le secrètement. C'est pas si secret que ça, puisque c'est le roi est tout de suite au courant. Au moment où ils arrivent dans Jéricho, on le met au courant qu'il y a des espions qui sont partis pour entrer à Jéricho. C'est-à-dire que le téléphone arabe avait un tout petit peu de retard. D'habitude, ça va plus vite que ça. Normalement, ça devrait dû venir avant les espions. C'est ce qu'on appelle, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on appelle les choses. Josué a fait tout pour que ça soit secret. Il a dû parler à un petit nombre de personnes. Les espions sont concernés. Et alors peut-être que les espions ont dit, oh, tu sais, je pars, Josué m'envoie. Et madame a entendu ça. Et elle a dit à la voisine, tu sais, mon mari, il part pour voir si à Jéricho, comment ça se trouve. Hein. Alors, ah oui! Et puis, peu de temps après, tout le marché le sait. Ah, oh, mais Josué a envoyé deux espions il y a 1 heure et ils sont partis et voilà, ils sont habillés comme ça et comme ça. Il n'y a pas de problème, tout le monde le savait. Il envoie secrètement, mais la chose se sait tout de suite. Et on peut tirer une leçon spirituelle de cela. C'est que nous devons faire attention aussi. On est entouré par beaucoup de choses. On a des contacts avec des multitudes de personnes. Et il y a des personnes qui nous influencent et qui parlent. Il y a comme un marché où tout se passe et on ne sait pas comment les choses se savent. Vous dites une chose et puis vous apprenez que vous dites un petit nombre et puis vous vous rendez compte que tout le monde le sait 2 jours après. C'est comme ça. Bon, c'est la communion fraternelle. Nous sommes des frères, on partage tout. C'est bien. Mais bon, parfois on n'aimerait pas. Mais il faut faire attention quand même. Il y a bien des choses qui on dit, mais eux disent aussi. Et on reçoit beaucoup d'influences. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et parfois on ne sait même pas d'où viennent les influences. C'est quelque chose est dit. Il y a une. Je ne sais pas. J'ai noté par exemple. Une chose, c'est dans notre génération hein, de frères en Christ, nous vivants maintenant, eh bien, il y a une dose de scepticisme. Et nous avons beau faire, on a du mal à se séparer de ce scepticisme qui est latent. Il est là. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être convaincu d'avoir la foi. Mais dans le passé, les gens, on leur expliquait les choses et hop, tout de suite, ils croyaient, hein. Ils acceptaient. Mais aujourd'hui, les gens remettent en question, non pas qu'ils ont un bon argument, mais c'est pour remettre en question. Simplement. On vous dit, moi j'ai un esprit critique. Mais ce n'est plus de l'esprit critique, cela. C'est du scepticisme. Parce qu'il y a des choses, elles n'ont pas besoin d'être remises en question. Et cela n'aide pas. À les remettre en question, ne nous aide pas si on les remet en question. C'est comme cela. Il y a une influence de ce monde, c'est le grand marché qui voisine pas loin de notre campement, qui nous amène ces pensées de ce monde, c'est ce scepticisme. Et nous avons du mal à nous séparer de cela. Et je peux vous avertir de faire très attention à la dose de scepticisme qui est dans votre cœur. Parce que elle lutte contre votre compréhension de la Bible, l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a un enseignement de la parole de Dieu qui ne doit pas être remis en question. Dieu a dit. Et quand Dieu parle, l'homme se soumet. On fléchit le genou devant Dieu. Et c'est très important. Je vous mets en garde. Je dois vous avouer que c'est quelque chose qui me travaillait beaucoup. Il y a 2 semaines à peu près, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans nos groupes? J'avais plusieurs choses. Et puis, je ne dormais pas une nuit. Et puis, je me suis dit, mais voilà, nous avons une certaine dose de scepticisme. On n'accepte pas d'emblée ce que Dieu dit. Et parfois, il faut 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans avant qu'une vérité biblique, on se l'approprie d'une manière concrète, puissante, solide, et qu'elle change notre vie. Et on peut se dire après, mais j'ai perdu 20 ans. Pour quelle raison? On ne sait même pas. Et je vous dis, c'est cette dose de scepticisme que nous recevons. On n'est pas prêt à accepter ce que Dieu dit tel quel. Dieu a dit, Dieu a parlé. Nous avons d'autres passages où, par exemple, vous avez un homme sur une ânesse qui va pour maudire le peuple. Hein, c'est Balaam. Mais Balaam, l'ânesse, s'est détournée à chaque fois. Hein, et jusqu'au moment où Dieu a mis une voix d'homme, d'être humain, dans sa bouche, et elle a dit quelque chose. Et le prophète, tellement obscurci, il n'a pas trouvé ça étrange. Tiens, tu parles maintenant? J'aurais attendu une réponse comme celle-là, hein. Mais non, il lui discute. C'est incroyable. Tous ces préjugés. On est prêt à faire des multitudes de choses complètement absurdes, mais obéir à Dieu, eh bien, on ne le fait pas facilement. C'est comme cela. Mais nous avons besoin d'apprendre que quand Dieu parle, c'est la vérité. Il n'y a pas une autre option que d'obéir. Nous croyons qu'il y a oui et non. J'obéis ou j'obéis pas, ou j'obéirai plus tard. Ne pensez pas ça une seule seconde. Si Dieu a parlé, c'est pour que l'on obéisse. Dieu a parlé pour que l'on avance, pour que l'on fasse les choses. Si nous n'avançons pas, c'est qu'il y a un problème. Et c'est toutes ces voix qui viennent de l'extérieur et qui colportent nos paroles déformées et remplies de fausseté, et toutes ces paroles qui viennent de ce monde et que l'on reçoit et qui nous empêchent d'avancer dans notre vie chrétienne. Et je peux dire, c'est le marché qui se trouve à l'extérieur du campement du peuple, et c'est là où on reçoit les informations, où on en donne, et où ça bouge, hein, c'est la grosse locomotive. Mais nous devons faire attention, parce qu'il y a une influence qui n'est pas bonne. Et nous devons être vigilants. Et je peux vous dire, c'est très difficile d'être vigilant. Parfois, c'est mon expérience personnelle, on n'arrive même pas à donner un nom à la chose. On sait qu'il y a un problème, mais on ne sait pas très bien où est le problème. C'est très important de faire attention à l'information que nous recevons et de qui nous la recevons. C'est tout ce qui ne nous engage pas à obéir à Dieu instantanément, c'est mauvais. Parce que quand Dieu parle, l'être humain obéit pour une raison, c'est que c'est Dieu qui a parlé. Et que c'est Dieu. Nous ne sommes que des humains, nous sommes des créatures. Et nous avons besoin, il est nécessaire d'obéir à son créateur. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc là, il y a un fait qui semble tout à fait anodin, et on est presque étonné, disons, de ne pas remarquer que les espions, eh bien, ont quasiment été devancés par les informateurs. Et je pense que s'ils n'ont pas été devancés, c'est que Dieu ne l'a pas permis. Parce que les portes seraient fermées. Ils ont eu juste le temps de rentrer. Ces portes ont été fermées après. C'est quelque chose, vous savez, d'arriver si près. Mais il a fallu que Dieu intervienne et qu'il empêche ces personnes d'arriver avant. C'est le donc même c'est le renseignement est très sophistiqué à cette époque. Il n'y a pas de recherches qui sont faites au sujet des espions. Est-ce qu'ils sont où ils sont allés en ville? Qu'est-ce qu'ils ont? Non, ils sont allés chez Rahab. C'est tout de suite, ils le savent. Alors, je ne sais pas. La description des vêtements devait être quand même assez bien décrite, parce que il y avait deux hommes habillés, l'un habillé comme ça, l'autre habillé comme ça. Ah oui, mais on les a vus, ils sont rentrés chez Rahab. C'était clair. C'est pour ça que ça a été. Donc, ils étaient bien ciblés, bien repérés dès le départ. Et quand ils sont arrivés, eh bien, ils n'ont fait que rentrer dans une maison et on a dit, bah, ils sont rentrés dans cette maison. Voilà. Et en fait, c'est vous voyez l'immense amour de notre Dieu. C'est d'une part, les espions ne sont pas devancés par les dénonciateurs. Ils rentrent. La première maison dans laquelle ils rentrent et dans laquelle ils sont accueillis, c'est justement la seule famille qui peut les recevoir. Tous les autres ne les auraient pas reçus, les auraient dénoncés. C'est la seule. Et c'est il envoie chercher. Hein. Et donc cette femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. C'est un mensonge, bien sûr. Hein, vous l'avez bien remarqué. Je voudrais dire trois choses sur ce fait et sur les mensonges dans l'Ancien Testament. Il y a des mensonges dans l'Ancien Testament. Et plusieurs personnes, même crédibles, ont menti. La première chose, c'est que la société de cette époque n'était pas basée sur la vérité. Je me rappelle d'une personne que je connaissais qui faisait du commerce. Disons, elle me disait, je fais des affaires. Moi, je disais, c'est du commerce. Mais en fait, c'était particulier, quoi. C'était du commerce sans payer les droits de douane, si vous voyez ce que je veux dire. On passait un coffre de voiture avec pas mal de choses et puis vendait comme ça à droite, à gauche. Tu connais un tel, il aimerait bien avoir. Et voilà. Et puis, on a parlé plusieurs reprises de cette forme de commerce, bien sûr, parce que je voulais m'instruire. Et alors, il m'a dit, mais tu sais, si tu dis la vérité, le commerce est impossible. Mais évidemment, je ne sais pas si on est dans les écoles de commerce, on étudie le mensonge, mais je ne sais pas si. Voilà. Mais alors ça, c'est au XXe siècle. 21e siècle maintenant, mais à cette époque, quand la personne me parlait, c'était au XXe siècle. Et alors, vous pouvez imaginer que dans cette société, le mensonge était perpétuel. J'ai connu des gens qui ne pouvaient rien dire de vrai. Non, mais toujours, il y avait une exagération, au moins. Ou si la vérité, il parlait de la vérité, alors il y avait des grands gestes, il y avait des exclamations, et pour dire que sa fille était arrivée en retard à l'école. C'est des choses comme ça. Ou bien, bon, il y a un tel qui est passé devant moi et au feu rouge et le stop, j'ai failli avoir un embouteillé la voiture, rentrer dedans. Et voilà. Mais si ça tombe, tout ça, il fallait rajouter, toujours rajouter. Je me rappelle ou même un fait grave, en parler vraiment avec des grands mots et des superlatifs, etc. Quand on considère qu'il y a des situations, il y a des périodes de l'histoire où la vérité n'existe pas. Le mensonge est la règle. Alors, quand Dieu a donné sa loi, le dernier commandement, c'est non pas dernier parce que dans son importance, mais le dernier dans l'ordre des commandements, eh bien, c'est de ne pas rendre de faux témoignages. On ne doit pas rendre de faux témoignages. Donc, parmi des gens où le faux témoignage, disons le mensonge était courant, le faux témoignage, On doit toujours tenir compte de leur capacité à comprendre la parole de Dieu. Donc, ils ont compris que dans un procès, je ne dois pas dire autre chose que ce que j'ai vu. Voilà. Après, quand je fais du commerce, je dis, ah, mais ça, non, ça c'est du, vraiment, ça, c'est du pur, je sais pas, du pur lin. Non mélangé, hein. C'est, bon, tout le monde sait que c'est très mélangé. Mais ça a été fait, tout le monde sait que ça n'a pas été fait là où on dit. Et que c'est vraiment, les couleurs se ne déteignent pas, hein. C'est, premier lavage, vous avez un rouge, vous avez un rose. Tout le monde le savait. Donc, on n'assimilait pas cela, la transgression d'un des commandements de Dieu. Ce n'était pas pour eux un faux témoignage. Le faux témoignage, c'est quand on demandait dans un procès une chose, eh bien, on répondait une autre. Là, oui, il y avait faux témoignage. Mais après, sur les couleurs, sur les machins, les choses, ça tient au lavage. Tout ça, on disait n'importe quoi. Donc, vous avez des mensonges comme cela. Donc ça, c'est une première chose. Il faut faire très attention. Parce que nous, on a plus de lumière que les personnes en avaient à cette époque. Et au fur et à mesure que la compréhension de la parole de Dieu a grandi, les gens ont dit beaucoup moins de mensonges. Si vous lisez la Bible, vous avancez, et vous verrez que les gens en disent de moins en moins. C'est parce que la parole de Dieu n'était pas comprise comme il le fallait. Et au fur et à mesure, ils ont eu plus de rigueur et la compréhension de la parole de Dieu est mieux entrée. Ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est un premier aspect, c'est par rapport au peuple d'Israël. Mais par rapport à cette femme cananéenne, mais elle n'avait pas du tout un dixième commandement. Elle n'avait rien du tout. Elle a menti parce qu'elle ne savait pas autre chose. Il n'y avait rien qui ne lui permettait de ne pas le faire. Il y a une troisième chose à laquelle il faut faire attention, c'est que on rencontre ces mensonges, parce qu'il faut les appeler par leur nom, dans l'Ancien Testament. Et il y a des personnes qui se sentent chrétiennes, qui se sentent autorisées à le faire du fait que dans l'Ancien Testament, il y a des personnes qui ont menti. Mais nous n'avons pas cette autorisation-là. Ce n'est pas parce que David a menti, parce que d'autres personnes, même des patriarches, hein, vous avez Abraham qui a menti, vous avez pas mal d'autres personnes, et qui étaient un ami de Dieu. Et David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a eu des mensonges. Mais cela ne nous autorise pas à mentir. Nous avons plus de révélations qu'eux. C'est parce que Dieu nous tient pour responsables de la révélation que l'on a et de ce que nous avons compris de la révélation de Dieu. Il y a des choses que nous n'avons pas comprises. Dieu ne nous tient pas complètement responsables. Il nous tient responsables de ne pas avoir cherché à comprendre, de ne pas avoir été assez près pour comprendre. Mais Dieu est juste pour qu'il ne tienne pas pour coupable, il ne condamne pas une personne qui a commis une action sans savoir. On est toujours jugé pour les lumières que nous avons reçues. Donc ça, c'est trois aspects qu'il faut faire très attention parce qu'on a vite fait de juger, de dire, voilà, cette femme, elle a menti. Mais vous êtes étonné que Dieu même, eh bien, utilise cette femme et son mensonge. Dieu ne cautionne pas le mensonge, mais néanmoins, cette femme-là n'a pas menti dans le sens où elle voulait transgresser la vérité. Elle a menti pour une raison. Elle avait la foi dans le vrai Dieu. C'est pas parce qu'elle aime le mensonge, mais parce qu'elle a voulu absolument, avec ses forces, cacher les espions. Et il y a sa profession de foi. Dans la deuxième partie du verset 11, il est dit: Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Cette femme-là dit ce qu'elle croit. Parce qu'elle est logique avec elle-même. Elle a raconté ce que Dieu a fait aux autres aux Égyptiens et aux deux rois des Amoréens. Et elle a tiré les conclusions justes de cette situation. Elle a dit: nos dieux ne sont pas des dieux. Ils sont absolument impuissants pour sauver. C'est le Dieu du peuple d'Israël qui est le vrai Dieu. C'est l'Éternel. Alors comment le sait-elle? Je ne sais pas. Mais il y a au moins un témoignage quelque part du vrai Dieu qui est arrivé jusqu'à elle, d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez réfléchir à la chose si vous avez du temps à perdre, mais il n'y a aucun indice qui nous permet. Il est probable que il y a des membres du peuple d'Israël soient allés à un moment donné à Jéricho. Il y avait un marché, sans doute, à Jéricho. Ils sont allés faire du commerce, ce fameux commerce, et ils ont dit: ah oui, mais notre Dieu, oh oui, les Égyptiens. Non seulement il y a les personnes qui sont venues, ah, vous êtes du peuple d'Israël. Mais c'est vrai ce qu'on raconte, que les Égyptiens, ce sont l'armée de Pharaon, s'est noyée dans... Ah si, 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 c'est vrai. C'est là, oui, ça, la mer s'est ouverte. Hein. Moïse a son bâton, la mer s'est ouverte. Voilà. Et puis ça se racontait, tout ça. Et cette femme-là, elle s'est dit: mais jamais nos dieux n'ont même ouvert les portes de Jéricho. Jamais vous pouvez attendre que les portes s'ouvrent par la main de, hein, je ne sais pas quelle était leur divinité, un Baal quelconque. Jamais elles se seraient ouvertes. Hein. Ils le savaient bien. Ils n'avaient pas d'illusion à se faire là-dessus. Mais il y avait des témoignages. Il y avait des gens qui parlaient. Des témoins oculaires. Et elle s'est dit: c'est le vrai Dieu. C'est ce Dieu-là qui est le vrai Dieu. Et enfin, elle voit arriver ces gens-là, ces espions. Et elle se dit: mais ceux-là, il faut les sauver. Il faut faire en sorte qu'on ne les trouve pas. Parce que elle faisait peu de cas de ses amis et de toute sa ville et de son roi et de toutes ces choses. Hein. Elle s'est dit: tout ça, c'est mauvais. Il faut, dans cette situation précise, intervenir. Et elle a manifesté sa foi, sa confiance, même en mentant. Et je pense qu'on peut lui pardonner, parce que je crois que Dieu lui a pardonné. Et nous, eh bien, on peut faire dire: ben, Dieu utilise même des personnes qui sont comme ça. Et elle a fait rentrer les espions, et elle les a fait rentrer dans sa maison, et elle les a cachés. Elle s'est engagée, elle a pris des risques. Pour Dieu. Elle a menti à son peuple. Donc elle s'est désolidarisée de son peuple. Elle a dit: ce peuple, c'est pas mon peuple. Je m'identifie au peuple d'Israël. Par son mensonge, elle s'est identifiée au peuple d'Israël. Et elle a plaidé contre son peuple. Et non seulement elle s'est engagée elle-même, mais elle a engagé sa famille. Et elle a pris en compte son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Je voudrais vous dire ici, il n'est pas question de mari ni d'enfant. Il n'y en a pas. Parce que c'était une femme de mauvaise vie et elle avait une mauvaise vie. La parole de Dieu ne nous parle pas de mari et d'enfant parce qu'il n'y en a pas. Par contre, un père et une mère et des frères et des sœurs, oui. Et donc, elle a mis sous sa foi, eh bien, sa propre famille. Et elle tenait à eux. Cette femme-là est exemplaire. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Si bien que sa foi ne doute pas de l'avenir. Parce que les murailles de Jéricho, elles sont encore debout. Et le peuple d'Israël est de l'autre côté du Jourdain. Ils ne sont pas devant les murailles de Jéricho. Il y a encore du temps avant que la conquête soit faite. Mais pour cette femme-là, la conquête a déjà eu lieu. Et elle agit en conséquence. Elle se dit: de toute façon, Dieu sera vainqueur au moyen de son peuple. Et elle s'arrange pour que, quand la victoire du peuple d'Israël et de Dieu sera effective, eh bien elle soit comprise dans la victoire et qu'elle ne subisse pas le sort des Cananéens de Jéricho. C'est pour cela que vous trouvez dans l'Épître aux Hébreux que c'est par la foi que Rahab l'a prostituée, parce que c'est une femme de foi. Avec le peu de lumière qu'elle a, eh bien, elle a suffisamment de foi pour anticiper et pour aller plus loin que la plupart des gens. Et même nous, aujourd'hui, on a des leçons à apprendre d'une femme comme elle, parce qu'elle voit même les événements à venir. Elle les projette, elle se projette dans l'avenir, parce qu'elle a la foi, parce qu'elle s'est dit, mais le vrai Dieu, la mer Rouge s'est ouverte, les murailles de Jéricho ne sont pas plus puissantes que la mer Rouge. Si la mer Rouge s'est ouverte, les murailles de Jéricho peuvent s'ouvrir. Il suffit simplement que le peuple, nous on sait qu'ils ont fait le tour pendant 7 jours, mais elle devait s'imaginer, voilà, le peuple va arriver, ils vont prier le vrai Dieu et tout va s'écrouler. Voilà, c'est comme ça. Alors le scénario qu'elle avait imaginé n'est pas décrit ici. Nous connaissons ce qui s'est passé, mais ce qu'elle a imaginé, elle n'était sans doute, et je ne peux pas penser autre chose, qu'elle était très loin d'imaginer ce qui allait se passer. Elle avait tout à fait peut-être une autre idée. Mais de toute façon, ce qui est là où elle était vraiment exacte, c'est qu'elle s'est dit, Dieu est tout puissant. Et certainement, il va arriver, il va réduire cette ville en ruine. Et nous, eh bien, nous allons subir le sort des rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain. Exactement ce qui leur est arrivé va nous arriver à nous aussi. Il n'y a aucune possibilité que ce soit autrement. Et ça, vous savez, ça s'appelle la foi. Et Dieu honore des personnes comme cela. Elles ont peu de lumière, elles n'ont pas toute la révélation, elles n'ont pas tout ce qu'il faudrait, elles n'ont pas vu le Sinaï embrasé, elles n'ont pas reçu les 10 commandements, peut-être qu'elles ignorent totalement même l'existence des 10 commandements, mais elle sait une chose, c'est qu'il y a le vrai Dieu et qu'il faut placer sa confiance en lui. Et que si elle place sa confiance en lui, elle va être délivrée, elle va être sauvée. Mais comme c'est difficile, eh bien, elle s'arrange. Elle discute avec ses espions. Et il y a comme un contrat qui est passé les uns avec les autres. Et par ce contrat, eh bien, tu me délivres, tu nous délivres, et nous, on vous délivrera. Tu es pour nous une occasion de salut, eh bien, le salut parviendra aussi jusqu'à toi. Je peux vous dire une chose, c'est que Dieu aurait sauvé les espions de toute manière. Que ce soit par cette femme ou d'une autre manière, ils auraient été sauvés. Parce qu'ils étaient envoyés par Josué et le peuple avait besoin d'être fortifié. Donc si les espions étaient morts à ce moment-là, le peuple aurait été très découragé. Donc je ne pense pas que les espions devaient mourir à ce moment-là. Mais cette femme-là, eh bien, a saisi le salut qui lui était offert. Les espions sont passés et elle a saisi le salut. Et elle a dit, voilà, je ne laisserai pas échapper. Parce que si je ne suis pas sauvé par eux, je subirai le sort de cette ville. Et donc, elle s'est arrangée. Elle a pris les dispositions pour qu'elle puisse être libérée au moment de la prise de Jéricho. Et que les choses se passent bien pour elle. Et cette femme-là ne pense à elle d'abord, mais elle pense aussi à sa famille, à ses proches. Et les espions disent... il faut que vous soyez dans la maison. Celui qui quitte la maison, nous ne sommes pas responsables. Mais il faut rester dans la maison. Et c'est là que se trouvait le salut. Il y a dans le salut un endroit où on est sauvé. En dehors de cet endroit-là, on est perdu. On rentre dans le cadre même du salut de Dieu. Ce n'est pas avec nos idées, avec nos principes et nos trucs et machin. Il y a un endroit limité. Il y a des limites. Et les espions ont dit, si vous sortez de là, le sang est sur votre tête. Mais si, par hasard, vous êtes tué dans cette maison, alors votre sang est sur nous. Il ne pouvait plus rester hein, dehors. Il fallait qu'il rentre complètement dans le. Du temps de Noé, il fallait être dans l'arche. Pour ce moment-là, il fallait être dans la maison. Il faut rentrer. Et celui qui est rentré, qui a passé la porte, eh bien, il est sauvé. Et celui qui n'a pas passé la porte, il est perdu. Fut-il le père ou la mère, hein? C'est pas parce qu'un membre de la famille est sauvé que tous les autres sont sauvés automatiquement. Il faut qu'eux aussi, ils soient rentrés. Si je veux dire, il y a une porte du salut, hein, comme il est dit, hein. Si quelqu'un de sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Donc il fallait rentrer dans cette maison, et à partir du moment où ils étaient rentrés, ils étaient sauvés. Le fait de parler du salut par rapport à cette femme et ce qui s'est passé n'est pas nouveau. Et j'ai trouvé cette histoire relatée pour parler de l'évangile aussi loin que le premier siècle. C'est dans l'épître de Barnabas, une épître donc hein, qui n'est pas dans la Bible, mais néanmoins les Coptes incluent l'épître de Barnabas dans leur Bible. Hein. Mais nous ne l'acceptons pas, et bon, depuis le Concile de Nicée, l'épître de Barnabas n'est pas dans la Bible. Et en effet, c'est normal, il y a une bonne raison. Il y a deux erreurs dans l'épître de Barnabas, simplement d'histoire naturelle, hein, et des erreurs que la Bible ne fait pas. Donc, c'était avec beaucoup d'intelligence que ceux qui ont dit l'épître de Barnabas n'entre pas dans le cadre des Écritures. Mais néanmoins, cet homme, quand il a parlé de Rahab et du salut, et que c'est une image pour nous parler du salut qui est en Jésus-Christ. Quand on a passé la porte, on est dans le salut. Celui qui n'a pas passé la porte, il est sous la condamnation de la ville. Et alors, il y avait une autre chose. Maintenant, voilà, le verset 18. Notre entrée dans le pays, attache le cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs et toute ta famille, etc. Donc, il y avait ce fil. Il dit, quand nous rentrerons dans le pays, tu attacheras le fil. Mais au verset 21, elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon. Je peux vous dire, quand vous savez une vérité, il faut la faire tout de suite. Il y avait un délai possible, mais elle l'a fait tout de suite. Les espions ont dit. Quand tu as le temps jusqu'à ce que le peuple arrive devant les murailles. Mais après, tu n'as plus le temps. Mais elle, dès qu'ils sont partis, elle a attaché le cordon. Là, il y était, et il était comme témoignage qu'elle était pour le salut, alors que les autres étaient perdus. Et même, vous savez, ce cordon de fil rouge, eh bien, nous parle du sang de Christ, hein, qui a coulé pour nos péchés. Et c'était visible. C'est les gens qui disent, tiens, qu'est-ce qu'elle a mis ça? C'est bizarre cette robe, quand même. C'est pas toujours toute sa tête. Il devait secouer la tête, elle est folle, quand même, hein, avoir mis ce cordon. Et je peux vous dire, elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre, et elle était sûre qu'il y était. Et je peux penser que si elle l'a fait tout de suite, elle devait vérifier plusieurs fois par jour qu'il n'était pas parti, qu'il était toujours là. Il est là. Oui, ça va. C'est rassuré. Puis quand elle a vu le peuple, J'imagine arriver près des murailles et que tout le monde commençait à être dans la consternation, elle a dû regarder le cordon un peu plus souvent, parce que son salut en dépendait. Son salut en dépendait. Je peux vous dire qu'il y a des personnes qui prennent au sérieux ce que Dieu dit. Et ces personnes-là, elles vont jusqu'au bout. Et elles participent au salut. Et je peux vous dire même une chose. C'est que Rahab, cette femme, elle est dans la lignée de Jésus-Christ. Hein. Dieu n'a pas trouvé qu'elle était de mauvaise vie. Je suis persuadé que une fois inclue dans le peuple d'Israël, elle était une femme pure, propre, qui a toute sa vie passée dans le paganisme et dans la corruption, ça a été changé. Autant que ma mémoire me le permette, elle a épousé un des deux espions, qui faisait partie de la tribu de Juda. Mais c'est pour cela, vous savez, quand on connaît une chose, quand on sait qu'une chose est vraie, alors ayez bien soin de faire tout de suite les choses. Même si vous avez l'impression que vous pouvez avoir un délai. Celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux parle et dit maintenant, c'est le jour du salut. C'est pas demain, c'est maintenant. Et c'est pas dans une heure, c'est maintenant. À chaque fois que nous sommes face à une vérité biblique, c'est maintenant, c'est pas plus tard. Et prenez toujours cela pour règle, parce que si vous ne l'avez pas pour règle, votre cœur s'endurcit. Parce que quand vous ajournez l'obéissance, vous êtes dans la désobéissance. Et étant dans la désobéissance, votre cœur s'endurcit. Et la deuxième fois, c'est plus facile de désobéir. Et c'est toujours plus facile d'ajourner, de retarder. Et ce qui est très très bien, c'est que cette femme, qui était ignorante de la plupart des choses de Dieu, eh bien avec le peu de lumière qu'elle avait, elle savait ce qu'il fallait faire. On trouve plusieurs de ces réactions qui sont bonnes. Même si elle a peu de lumière, néanmoins, elle a les bonnes réactions. Et la dernière, eh bien, c'est que c'est instantanément, elle le fait. Et alors les espions arrivent, ils descendirent de la montagne, parce qu'elle leur a dit, hein, partez dans les montagnes. Prenez le chemin de la montagne. C'est le chemin opposé, hein, pour retourner chez eux. C'est au contraire le chemin de la plaine. Donc elle leur dit, prenez le chemin de la montagne pour dire, allez-vous cacher, parce qu'il y a des grottes dans cette région, et allez dans la montagne et trouvez un endroit pour vous cacher. Et dans 3 jours, eh bien, quand ceux qui vous poursuivent seront revenus, eh bien, vous pourrez reprendre votre chemin. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc ils dirent à Josué, c'est le verset 24, certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Voilà ce qu'ils ont ramené de leur espionnage. Et je vais vous dire quelque chose. Ils n'ont pas beaucoup espionné. On ne les a pas vus regarder dans toute la ville. Ah ben, l'endroit de la muraille ici là, paraît plus faible que l'autre côté. Si on attaque de ce côté-là, c'est comme ça que les espions font. Hein. Ils vont voir, oui, mais là c'est bien défendu, il y a une forteresse derrière. Hein. On peut mettre beaucoup d'hommes sur cette plateforme-là. Si l'autre côté, avec deux, ça suffit. Si on doit attaquer, c'est là où c'est faible. Et on regarde ces choses-là. Ils n'ont rien regardé. La seule chose. Leur espionnage, c'est le témoignage de cette femme. Elle leur a dit, Dieu a livré le peuple entre vos mains. Voilà. Tout le monde est abattu. Tout le monde a compris que c'est la fin et que vous allez être vainqueur. Et elle en est tellement persuadée qu'elle va et qu'elle protège les espions. Et la foi de cette femme leur est communiquée. Et avec cette persuasion, les paroles qu'elle leur a dites, eh bien, Ils vont vers Josué et ils disent, il n'y a aucun problème. Le peuple, c'est l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. C'est les murailles, aussi épaisses soient-elles, ne les rassuraient pas. Et pourtant, il y avait de quoi. Hein. Je vais vous raconter juste un petit fait avant de terminer. Les Égyptiens ont fait le siège d'une des villes philistines, je pense que c'est Asdod ou Ascalon, je ne m'en rappelle plus, pendant 26 ans. Une des villes dans le modèle de Jéricho. 26 ans. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, quand le pharaon est mort, que le nouveau pharaon est venu, ben, ils sont partis. Ils n'ont jamais conquis cette ville. Et c'était une ville comme Jéricho, hein. C'est pas plus, pas moins. Hein. Ils construisaient les villes sur ces modèles-là. Mais les gens étaient terrorisés parce qu'ils avaient compris que Dieu était le Tout-Puissant et qu'il faisait des choses extraordinaires au milieu de son peuple d'Israël.